Bienvenue sur le podcast Zone Grise. Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et sportive passionnée. Quand j'ai décidé d'aller en nutrition, c'était pour deux raisons vraiment évidentes pour moi. D'abord, parce que je trippe sur le sujet simplement, puis deuxièmement, parce que j'avais plein de questions, j'étais super curieuse, puis j'avais l'impression que c'était vraiment difficile d'obtenir des réponses à mes questions. Finalement, j'ai réalisé que plus que tu en sais, plus que tu as de questions, puis plus que c'est difficile d'avoir des réponses. Sur le podcast Zone Grise, j'invite donc des invités qui ont des discours divergents, parfois même opposés aux miens, tout simplement pour creuser différents sujets. Puis mon objectif, c'est que tu sois en mesure de te faire une tête sur ce qui convient à tes habitudes de vie en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. Ma nouveauté pour la deuxième saison, c'est que je vais être accompagnée de nutritionniste que j'adore, qui collabore avec moi, Sabrina Lamar, qui va se joindre avec moi à l'animation pour les prochains épisodes. Je vous souhaite une excellente saison. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 2, épisode 7. Donc aujourd'hui, je suis avec une collègue nutritionniste, Céline Saloumi. Bonjour Céline!
Allô!
Ça me fait un énorme bonheur de te recevoir. On a deux sujets aujourd'hui. Tant qu'à t'avoir, je me suis dit pourquoi pas. En fait, je pense que toi-même, tu te spécialises dans ces deux branches qui probablement sont connexes, en fait, qui sont l'alimentation anti-inflammatoire ou l'inflammation, justement, et la fertilité. J'ai l'impression que ce deuxième sujet est de plus en plus, et bien malheureusement, en plus d'actualité. Fait que avant d'aller plus en profondeur dans ces sujets, on est tous curieux de savoir, mais qui est cette Céline et qu'est-ce qu'elle fait? J'aimerais que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser particulièrement à ces aspects de la nutrition. Donc, présente-toi un petit peu, ma chère.
Très bonne question, Vanessa. Qui est Céline? Puis pourquoi Céline fait ce qu'elle fait? C'est une excellente question.
On va commencer avec la base.
Oui, on va commencer avec la base. Au premier, merci beaucoup de m'avoir invitée. Puis c'est vraiment deux sujets qui me passionnent beaucoup. Puis c'est vraiment amplement dans mon champ d'expertise. Mm-hmm. Mais pour juste te donner un petit portrait de qui je suis ou pourquoi je suis qui je suis, c'est en effet, moi, je suis nutritionniste depuis plus que 15 ans. Puis quand j'ai débuté ma carrière, c'était plus dans l'enseignement au début. Puis par la suite, je travaillais beaucoup en nutrition clinique, mais principalement dans les maladies chroniques. Mm-hmm. Puis je pensais que c'était vraiment ça mon jam, genre les maladies chroniques. Puis il y a plus environ 9 ans, on peut dire, je me suis trouvée avec un diagnostic d'infertilité inexpliquée dans une clinique de fertilité. Puis c'était comme genre une bombe qui a explosé dans ma face. C'était vraiment un monde tout à fait étranger pour moi. Puis j'ai réalisé à quel point je ne comprenais rien du tout. Puis, je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un de très scientifique. Puis pour moi, juste dire de faire X choses sans m'expliquer le pourquoi, ça ne passait vraiment pas pour moi. Donc, il fallait vraiment que je comprenne qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui arrive. Puis aussi, le terme inexpliqué, ça me frustrait énormément. Mm-hmm. C'est comme ça que genre, j'ai commencé vraiment plus de point de vue personnel à faire mes recherches, à faire des lectures, à suivre des professionnels de la santé qui sont plus dans le domaine, des médecins qui sont dans le domaine. Donc, c'était vraiment, j'ai commencé un peu par explorer le terrain, si on veut dire. Puis finalement, avec mon parcours personnel, puis les amis autour de moi, des clients que je voyais de plus en plus, j'ai réalisé que c'était vraiment un domaine que je voulais plus explorer. Puis il y avait tellement de choses qu'on connaissait pas, genre. À l'université, on nous apprend vraiment rien en lien avec la préconception. C'est juste un peu de grossesse, peut-être on parle de l'acide folique, puis d'acide, ça se termine ici. Mm-hmm. Donc, mais j'ai réalisé que c'est vraiment un domaine tellement fascinant, puis qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, parce que pour toute personne qui souffre d'infertilité ou dans un contexte de fertilité, il y a tellement de facteurs qu'on peut vraiment pas contrôler. On ne peut pas contrôler si on va avoir un test de grossesse positif, s'il y a eu une fécondation, si les traitements de procréation assistée vont être ou non. Mais, donc, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut contrôler ce qu'on mange. On peut contrôler notre mode de vie. Puis ce qu'on mange et notre mode de vie ont tellement un impact sur la qualité des ovules, la qualité des spermatozoïdes. Puis si je vais faire un petit... link avec l'alimentation anti-inflammatoire, c'est pas que je me spécialise dans ça, c'est que il y a tellement de problèmes de fertilité qui impliquent une inflammation. Donc, on veut vraiment comme adresser cette inflammation pour aider, par exemple, l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. Ou même quand on parle d'âge avancé, surtout pour la femme, donc il y a plus de stress oxydatif au niveau de la qualité des ovules. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour juste vraiment rentrer là-dedans. Puis, je peux te dire, vraiment, les 3 dernières années, c'est là où j'ai comme explosé. Puis, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux. Puis, graduellement, c'est rendu vraiment ma niche. Donc, là, en 95%, les clients que je rencontre, c'est vraiment en lien avec la santé des femmes. Donc, problèmes hormonaux, problèmes de fertilité. Puis, je fais aussi troubles digestifs parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont indirectement aussi des problèmes digestifs en lien avec leurs conditions, comme par exemple le colon irritable.
Très lié à l'inflammation aussi, le système digestif. On en parlera plus tard, mais...
Oui,
donc, on va commencer avec l'inflammation, puis ensuite, on parlera davantage de fertilité. Donc, l'inflammation, ça, j'avais hâte de jaser de ça parce qu'on en entend parler énormément. Puis on peut lire plein d'affaires. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes qui circulent au niveau de l'inflammation. Puis justement, on en parlait un petit peu avant de débuter l'enregistrement, là, mais quand je t'ai envoyé mon plan de match pour l'épisode, tu m'as recadré un petit peu. Là, avec mille et une questions. Clairement, on aurait pu jaser toute la journée. Donc, évidemment, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est que on va ouvrir la porte sur différents sujets puis tout, mais de toute façon, je pense que tu pourras jaser, Céline, plus tard. Je pense que tu offres justement des produits là, pour en savoir davantage. Mm-hmm. Donc, ceux qui veulent creuser un petit peu plus profondément le sujet. Mais je pense que pour bien mettre la table, en fait, on peut commencer en définissant, tu sais, c'est quoi complètement, tu sais, carrément l'inflammation puis comment ça se manifeste dans le corps humain. Parce que j'ai l'impression que juste ça, à la base, c'est peut-être un petit peu mal compris. Qu'est-ce qu'il y a réellement puis pourquoi est-ce qu'on souffre d'inflammation?
C'est un sujet qui est tellement frais dans ma tête parce que hier soir, j'ai donné un webinaire sur l'alimentation anti-inflammatoire.
Merveilleux. Justement, je me demande.
L'alimentation anti-inflammatoire. Donc,
je me demande si c'était hier ou ce soir, justement.
Oui.
Mais tant mieux.
Mais pour répondre à ta question, effectivement, donc quand on pense au mot inflammation, on a peur. Donc, il y a cette tendance que inflammation égale c'est quelque chose de mauvais. Mais en effet, l'inflammation, c'est une réaction qui est normale et aussi nécessaire du corps pour nous protéger contre genre n'importe quel corps étranger ou n'importe quelle lésion ou blessure. Mm-hmm. Et dans un contexte d'inflammation, quand l'inflammation est plus chronique, c'est là que ça devient plus problématique. Donc, on a deux types d'inflammation. On a l'inflammation qui est plus aiguë. Donc là, j'ai un petit bobo, une blessure, puis mon système immunitaire qui se localise pour aller comme aider à me guérir. Tu vas avoir une enflure, une rougeur, une chaleur. Donc, on va avoir comme des symptômes qui vont démontrer qu'il y a comme une inflammation, puis le système immunitaire réagit. Mais quand puis ça, c'est comme vraiment, ça dure peut-être quelques minutes à quelques jours. C'est vraiment comme de courte durée. C'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire. Puis si on n'a pas ça, c'est un problème. C'est vraiment, ça fait partie d'un bon système immunitaire. Mais quand on parle d'un contexte d'inflammation chronique puis alimentation anti-inflammatoire, c'est vraiment quand le système immunitaire n'est pas nécessairement en train, genre, de guérir une lésion spécifique, mais il attaque plusieurs cellules sans nécessairement qu'il y ait un danger spécifique. Mm-hmm. C'est vraiment que ça peut être chronique, ça peut être long terme. Il n'y a pas vraiment des symptômes apparents comme j'ai expliqué tantôt. Donc, il n'y a pas nécessairement une rougeur ou une enflure qui va dire que je suis en inflammation chronique. Puis les causes de cette inflammation chronique, c'est qu'il y a certaines personnes, à cause d'une maladie ou un problème X, ils vont avoir comme une suractivation de leur système immunitaire. Ça fait en sorte qu'ils ont ce qu'on dit en anglais de low-grade inflammation. Donc, c'est comme une inflammation. Donc, il y a tout le temps, leur système, il est tout le temps comme go, 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 adrénaline, puis il est tout le temps en activation. Donc, les personnes qui ont des maladies auto-immunes, je pense au diabète type 1, la sclérose en plaques. Il y a certaines maladies inflammatoires comme l'endométriose, comme le syndrome des ovaires polykystiques qui a une composante inflammatoire dans le syndrome. Les maladies inflammatoires de l'intestin, donc, il y a des facteurs qui prédisposent le fait d'avoir une inflammation chronique, mais aussi il y a le stress, Il y a l'exposition à des toxines, des perturbateurs endocriniens, certains médicaments, une blessure non guérie à long terme. Donc, c'est tellement complexe comme domaine. C'est vraiment genre impossible d'aller comme cibler comme il faut, mais c'est vraiment hyper complexe quand on parle de l'inflammation, surtout quand on parle d'inflammation chronique. Je ne sais pas si c'est clair quand j'explique la définition entre les deux, mais
ben pour
c'est
moi,
tellement différent. Pardon?
Pour moi, ça l'est. Ça va l'être, oui, oui. Je pense que ça met des bonnes bases, effectivement. Mais c'est clair qu'une inflammation chronique, comme tu dis, c'est tellement vague, c'est tellement large, puis c'est tellement difficile, de, justement, de décrire ça précisément, que ça englobe beaucoup de choses. Puis, tu sais, concrètement, comment est-ce qu'on sait qu'on fait de l'inflammation? Est-ce que c'est toujours lié à une maladie quelconque? Tu sais, je sais qu'il y a des marqueurs spécifiques de l'inflammation. Est-ce que, justement, il y a certains marqueurs que tu suggères peut-être de faire doser?
Pas spécifique. Ben, moi, je vais plus me concentrer parce que ça va être plus facile pour moi de me concentrer avec les problématiques avec lesquelles je travaille. Donc, ça aurait été idéal de dire, OK, pour quelqu'un qui a, par exemple, l'endométriose, qu'on sait que c'est une maladie qui est vraiment inflammatoire, OK, va doser la CRP, puis on va savoir si tu as l'endométriose ou non. C'est pas le cas, malheureusement. C'est pas tout le temps les marqueurs d'inflammatoire qu'on va doser dans les prises de sang qui vont comme indiquer qu'il y a une inflammation ou non. Mm-hmm. Mais c'est vraiment, je te dirais, comment on va savoir si à la base, il y a une maladie inflammatoire où il y a une maladie auto-immune, mais parfois aussi par les douleurs chroniques. Donc, quand il y a des douleurs qui sont chroniques dans le corps, ça aussi, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système.
OK, très intéressant. Puis, si on fait le pont, justement, avec l'alimentation, la première chose que j'avais envie d'adresser, justement, dernièrement, j'ai reçu Andréane Martin, puis on a parlé beaucoup du microbiote, du système digestif. Mm-hmm. On le disait justement tantôt, il y a les maladies inflammatoires de l'intestin, puis on sait justement que l'alimentation a un grand rôle dans tout ce qui est inflammation, notamment par l'influence du microbiote. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais selon toi, c'est quoi le rôle justement de l'intestin dans l'inflammation?
Ben, je pense qu'Andréane fera un meilleur job à expliquer ça plus en détail, mais je vais te dire, de point de vue microbiote, ce qu'on sait dans la littérature, c'est que ce qu'on mange va soit favoriser la sécrétion de bonnes bactéries, soit la sécrétion plus de mauvaises bactéries. Donc, la façon qu'on va se nourrir va soit nourrir des bonnes bactéries ou plus des bactéries qui vont plus comme sécréter des molécules qui sont plus inflammatoires. Donc, ça, c'est pour rendre ça comme le plus sain possible. D'où pourquoi c'est tout le temps, on encourage tout le temps d'avoir une alimentation qui contient des prébiotiques, donc ces aliments qui vont donner la bonne nourriture à nos bactéries, puis d'inclure des aliments qui contiennent des probiotiques pour aller coloniser plus de bonnes bactéries. Donc, mais oui, effectivement, le microbiote, c'est un domaine qui est tellement fascinant. Il y a tellement des études qui sortent presque. Je ne veux pas dire à tous les jours, mais c'est vraiment, il y a tout le temps des études qui sortent, qui parlent de l'impact du microbiote sur la santé mentale, sur la fertilité. C'est un domaine qui est hyper fascinant.
Mm-hmm. Puis on sait justement qu'il y a la majorité finalement du système immunitaire se trouve au niveau du système digestif. Donc clairement, l'immunité puis l'inflammation, c'est hyper lié, comme tu disais. Dans le fond, l'inflammation, c'est en partie une réaction du système immunitaire.
100%.
Bon, super, vraiment, vraiment cool. Donc, on y va avec le cœur du sujet. Donc, j'avais ciblé différentes catégories d'aliments là, qui sont ciblés souvent comme étant bons ou mauvais. Le fameux bon ou mauvais qu'on essaye un peu de limiter de plus en plus en alimentation pour mettre les aliments sur un même pied d'égalité. Mais quand on parle d'inflammation, il y a toujours des aliments ou des catégories d'aliments qui se retrouvent au banc des accusés. Fait que j'avais fait une liste, puis là, tu m'as dit « c'est trop ». On va cibler quelques-uns. Donc, j'avais notamment le gluten et les produits laitiers qui sont les premiers auxquels on pense quand on parle alimentation, quand on pense à alimentation pro-inflammatoire. Puis quand je dis c'est les premiers auxquels on pense, c'est pas nécessairement parce que c'est les pires, mais justement, c'est ceux dont on parle beaucoup sur le web, dans l'industrie de la littérature. Là, il y a énormément de livres qui sont rédigés par rapport à ça. Fait que, est-ce que tu peux faire le point là-dessus? Peut-être qu'on pourrait commencer par le gluten et inflammation. Quoi penser de cela?
C'est une zone grise, comme le nom de ton podcast.
C'est bon, hein?
Beaucoup de controverses sur le sujet, que ce soit dans la littérature scientifique ou que ce soit aussi de point de vue ce que des professionnels de la santé vont penser. Donc, on va voir vraiment des médecins, des nutritionnistes, des professionnels de la santé qui vont dire « le gluten, c'est un non », puis on a d'autres qui vont dire « non, c'est correct, sauf X, Y, Z ». Je peux te dire que c'est une chose que j'ai discuté hier pendant mon webinaire. Puis il y avait une très grande partie où j'ai parlé plus des aliments qui sont anti-inflammatoires parce que je suis quelqu'un qui aime plus mettre le focus sur le positif. Ouais, puis j'ai gardé vraiment plus les controverses vers la fin. J'avais regardé une récente revue de littérature qui a regardé un peu la tendance du régime sans gluten pour spécifiquement des personnes qui n'ont pas nécessairement la maladie cœliaque. Donc, on s'entend, c'est sûr que s'il y a la maladie cœliaque, 100%, c'est un régime qu'il faut absolument suivre, mais la tendance de suivre un régime sans gluten pour des personnes qui ne sont pas nécessairement cœliaques. Puis, l'étude a identifié comme plusieurs catégories de personnes, entre autres, où les études ont analysé l'impact d'une alimentation sans gluten sur la diminution des symptômes. Donc, l'endométriose, ça faisait partie des catégories. Il y avait la schizophrénie. Il y avait aussi la fibromyalgie. Donc, on sait que la fibromyalgie, c'est vraiment des douleurs chroniques. Il y avait aussi la maladie, c'est non-celiac gluten sensitivity. Je trouve le mot, j'essaie de trouver le mot en français. La sensibilité au gluten, mais qui est non-celiac.
Oui, c'est ça, exactement.
Donc, des personnes qui vont présenter des symptômes qui ressemblent un peu à la maladie cœliaque, mais qui n'ont pas spécifiquement les anticorps, qui n'ont pas genre le profil typique métabolique d'une personne qui a la maladie cœliaque. Puis si on regarde toutes les études, donc par exemple, si je mets plus la lumière sur l'endométriose, il y a deux études qui ont vraiment évalué si en suivant une diète sans gluten, est-ce qu'il y a une diminution des douleurs. Puis c'était vraiment une diminution significative, donc on parle de 70% de diminution des douleurs. Si on regarde l'étude qui a regardé pour la schizophrénie ou la fibromyalgie, même chose, il y avait une diminution des douleurs. Okay. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'était vraiment le gluten ou est-ce que c'est d'autres composantes dans le gluten qui font ça? C'est ça qu'on ne sait pas encore. Mais aussi, ce que je peux te dire, que surtout quand on parle plus des troubles digestifs, parfois, surtout dans un contexte de genre endométriose puis colon irritable, parce que souvent, des femmes qui ont l'endométriose, ils vont avoir aussi beaucoup de ballonnements, des problèmes digestifs. Ils vont dire, OK, quand je mange des pâtes ou quand je mange genre un aliment qui contient du gluten, je suis enflammée. Puis là, genre, qu'est-ce que vous voulez dire par enflammée? Je suis ballonnée, je suis X, Y, Z. Puis là, j'essaie d'expliquer la différence entre fructane puis gluten. Donc, c'est vraiment les fructanes et non spécifiquement le gluten qui est en train de faire, qui est plus comme le problème. Mais ceci dit, dans un contexte de maladie chronique puis dans un contexte de... quand il y a vraiment des douleurs chroniques, donc quand on vit dans une douleur chronique qui affecte énormément la qualité de la vie, donc par exemple, mes clientes qui souffrent d'endométriose, il y en a qui n'ont pas de symptômes. Le seul symptôme, ça serait peut-être l'infertilité. Puis, il y en a d'autres qui vivent vraiment avec une panoplie de médicaments antidouleurs à tous les jours pour pouvoir passer à travers leur journée. Donc, ces personnes-là sont vraiment prêtes à tout faire pour diminuer la fréquence des douleurs. Donc, dans ce contexte, moi, ce que personnellement je fais, donc au lieu de commencer à faire des éliminations puis genre généraliser puis dire « OK, une diète sans gluten pour tout le monde » ou voici ce qu'il faut faire. Parfois, ce que je fais, c'est vraiment une diète d'élimination pendant un cycle menstruel complet, donc pendant 4 à 5 semaines. Puis, on fait comme une échelle de douleur, puis on fait le avant, puis l'après, puis on voit est-ce que ça fait une différence. Puis, je peux te dire que j'ai des clients qui vont me dire une grande différence du jour au lendemain, puis on a d'autres qui vont me dire « ça n'a rien fait pour moi ».
Ouais, c'est
donc,
ça.
Puis dans le cas où ça n'a rien fait pour eux, pour moi, ça ne sert à rien de dire « OK, on va continuer dans une alimentation sans gluten ». Aussi, une chose importante à savoir, c'est que si jamais la personne décide d'essayer l'alimentation sans gluten dans le but de réduire l'inflammation, il faut penser que un produit sans gluten, ce n'est pas nécessairement un produit qui est hyper nutritif.
Oui, ça, je le répète.
Il y a beaucoup de produits qui sont transformés. Il y a beaucoup de produits qui contiennent aussi des glucides qui ont un indice glycémique élevé. Et ça risque d'augmenter l'inflammation. Donc, il faut absolument penser à introduire des types de graines qui sont bénéfiques aussi pour la flore intestinale, qui vont aussi être nourrissantes et comme éviter les carences alimentaires qui peuvent provenir d'une alimentation sans gluten. Parce que je reçois tout le temps des clients en pratique privée puis qui suivent déjà une diète sans gluten depuis plusieurs mois ou peut-être des années, mais encore la douleur, elle est comme persistante. Mais si je regarde ce qu'elles sont en train de manger, c'est principalement des produits qui sont hyper transformés. Ça, il faut faire attention. Ça ne va pas du tout aider. Donc, même si c'est sans gluten, ça ne veut pas dire que ça va être meilleur pour vous.
Puis souvent, justement, les personnes qui nous écoutent ne savent peut-être pas, mais tu sais, le gluten, c'est une protéine, puis c'est une protéine de texture aussi qui est hyper importante dans l'effet structurant, finalement, du produit alimentaire. Fait que souvent, quand on enlève ça, bien, ça prend des additifs alimentaires aussi pour aller réussir à obtenir un produit qui a de l'allure. Donc, souvent, 100%. Plus d'additifs alimentaires dans les produits sans gluten, là, souvent, là, je ne veux pas généraliser. Là. Puis, tu disais justement, tu sais, justement, que quand les personnes allaient te consulter, tu débutais souvent avec une diète d'élimination, puis après, tu allais voir justement s'il y avait des résultats ou non. Puis quand tu dis diète d'élimination, est-ce que tu parles justement élimination, mettons, du gluten ou tu es plus dans le sans FODMAP?
Ça dépend. C'est très personnel. C'est vraiment très personnalisé. Donc, si avec mon évaluation, je remarque que c'est principalement les fructanes qui sont problématiques, puis il y a une composante de colangeta. Ouais. J'ai plus pour tester plus les fructanes, puis j'explique la nuance entre les deux. Puis c'est pas nécessairement toutes les clientes qui ont l'endométriose que je vais leur demander d'aller faire une diète sans gluten. Donc, ça va vraiment dépendre de l'évaluation. Si je trouve que c'est vraiment très dominant, par exemple, dans l'alimentation, puis la douleur, les douleurs sont tellement chroniques, puis peut-être on a exploré d'autres avenues, puis ça fonctionne pas, ça peut être une option que je peux explorer avec eux. Donc, je ne peux pas te dire que c'est très typique avec chaque client que je vais faire ça, mais ça va dépendre de la personne qui est devant moi, de ses antécédents médicaux, de ses objectifs. Il y a tellement de facteurs.
Ta réponse est parfaite parce que ça démontre à quel point, justement, ça a besoin d'être personnalisé. Mm-hmm. C'est des recommandations alimentaires. Ouais. C'est nécessairement en allant sur Google qu'on va trouver la réponse.
Ouais, 100%.
Puis j'adore, petite mention aussi sur le fait que tu fais tes diètes d'élimination en fonction du cycle menstruel.
Ouais.
C'est tout en cohérence avec ton travail.
Ah non, tu vas voir, je suis genre full santé des femmes. Puis je t'explique pourquoi selon le cycle menstruel. Parce
oui,
que,
vas-y, c'est super intéressant.
Tu vois, par exemple, en parlant de la diète FODMAP, j'ai plusieurs clientes qui souffrent d'endométriose que j'ai essayé avec eux pendant la phase ovulatoire puis la phase prémenstruelle, là où il y aura plus des crampes pelviennes, mm-hmm. tendance plus à ballonner ou avoir comme des bémols digestifs, d'aller plus vers comme un low FODMAP durant cette période, okay. Ça aide énormément.
Yeah,
donc, puis aussi passer à travers tout le cycle menstruel parce que ben, les femmes ont une nature cyclique, puis ça mm-hmm. tout dépendamment de où on est dans la phase, l'énergie, l'appétit, tout est différent. Donc,
les hormones. Ouais. Super intéressant, cool. Puis maintenant, le produit laitier, grosse controverse là, également, uh-huh. produit laitier et inflammation. C'est un sujet que moi, j'avais beaucoup quand même fouillé. Je suis curieuse de t'entendre sur le sujet.
OK. Bon, les produits laitiers, si on commence par ce que la science dit,
ouais.
J'ai fait vraiment une recherche très récente pour regarder quelles sont les dernières comme plus explorations. Puis il y avait une, deux, puis trois. Deux revues de la littérature sur les produits laitiers en général puis leur impact sur l'inflammation. Puis une troisième spécifiquement que j'ai regardée en lien avec les produits laitiers puis l'endométriose. Mm-hmm. Puis les trois, la conclusion, c'est que les produits laitiers ont soit un effet neutre, soit même un effet positif et non pas négatif sur mm-hmm. l'inflammation. Surtout quand on parle des produits qui sont fermentés. Mm-hmm. Dans l'étude de l'endométriose, la seule chose qui est sortie, c'est qu'il y avait une relation significative entre une consommation élevée de beurre et les douleurs associées à l'endométriose. Mais à part ça, les produits laitiers comme riches en gras, les produits laitiers qui ne sont pas écrémés, genre, mm-hmm. puis le fromage, il n'y avait vraiment pas une association négative entre les douleurs puis l'endométriose. Mais ceci dit, je reviens encore une fois, ça, c'est les études scientifiques, mais il faut aussi regarder la personne en tant que telle. Mm-hmm.
Donc, d'accord.
Moi, ce qui m'arrive dans ma pratique, c'est que je peux faire ma consultation avec le client puis je remarque que, par exemple, les produits laitiers sont très dominants. Ce que je ferais avec elle, c'est une diète d'élimination puis c'était complètement les produits laitiers. Je peux te dire, dans 95% des temps, tout le monde me dit, je me sens super bien. Et genre, la diminution des douleurs, genre, c'était comme un 8 sur 10, puis là, c'est rendu un 4 sur 10. Je suis comme, OK. Là, c'est à moi de voir, est-ce que c'est tous les produits laitiers? Est-ce que c'est la caséine? Est-ce que c'est le lactose? Donc, c'est là où on commence à, comme on fait avec l'approche FODMAP, c'est comme de tester, de voir c'est quoi le problème. Donc, après cette élimination, puis les symptômes ont diminué, je peux, par exemple, tester de dire, OK, on va comme aller plus essayer les produits laitiers sans lactose. Puis, on va voir, est-ce que les douleurs vont revenir? Puis, on va aussi, pendant un certain moment, tester les produits à base de caséine A2, donc les produits de chèvre, les produits de brebis ou les fameux produits laitiers A2, puis voir est-ce qu'il y a une différence. Mm-hmm. Puis, je vois aussi qu'il y a plusieurs de mes clients qui vont quand même très bien tolérer les produits de chèvre, donc caséine A2, mais quand on introduit genre des produits de vache, c'est là aussi comme plus problématique. Donc, encore une fois, c'est très personnalisé. Donc, il ne faut pas comme genre blâmer les produits laitiers puis dire que les produits laitiers, c'est comme un gros non. Mm-hmm. C'est vraiment personnalisé puis ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, donc il ne faut pas tomber dans la restriction sans une cause, donc sans que ça soit vraiment justifié. Puis si jamais il y a le besoin de couper X ou Y, il faut tout le temps trouver des alternatives. Et on revient à l'idée, c'est qu'il faut tout le temps consulter pour avoir de l'aide comme il faut et pour comme ne pas être en carence, puis pour être bien encadré.
Puis pour ne pas s'imposer des restrictions inutiles
non
aussi.
Non, nécessaire.
Et je veux dire, c'est compliqué. Ça peut être compliqué là, de couper tous les produits laitiers, puis ça peut être plate aussi pour quelqu'un qui aime ça. Si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas souhaitable. Ça vaut la peine de mettre le doigt sur ce qui cause réellement problème. Puis justement, comme tu le dis, ce qui est difficile avec la littérature, puis j'aime beaucoup que tu fasses le pont entre, OK, il y a la science, mais il y a ce que je vois dans mon bureau. T'sais, moi, je crois énormément à ça aussi. Puis des fois, il y a de l'essai-erreur aussi en nutrition. Fait que même si la science me dit que c'est bon, c'est peut-être pas démontré scientifiquement, mais que toi, tu les enlèves puis tu te sens bien, ben tu sais, enlève-les, là. Fait que il y a aussi cette part. Là, puis justement, par rapport aux produits laitiers, tu disais, tu sais, bon, il y a la caséine, il y a le lactose, puis là, il y a le yogourt qui n'est pas l'équivalent du beurre ou de la crème glacée ou de. Fait que, tu sais, des fois, il faut tellement aller justement fouiller plus loin que juste le produit laitier. Juste ça, en tant que tel, c'est déjà très large, là. Fait que, tu sais, des fois, ça mérite justement d'apporter beaucoup de nuances, ce qui, malheureusement, souvent n'est pas très fait. Puis c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent « j'ai tout essayé, mettons, j'ai retiré le gluten, j'ai retiré les produits laitiers, puis j'ai pas de succès », mais des fois, c'est peut-être justement pas assez personnalisé.
Exactement.
Donc, pour un peu clore le sujet de l'inflammation avant de passer justement à ton dada, donc la fertilité. Ah non, on n'a pas fini l'inflammation. On arrive au meilleur.
Ouais.
Donc, ce que je voulais dire, dans le fond, c'est qu'il y a d'autres choses là, qui sont accusées comme étant justement des produits qui sont inflammatoires. Donc, j'avais noté notamment les sucres raffinés, évidemment, les additifs, les pesticides, les aliments transformés, la viande rouge, etc. Mais on n'a pas nécessairement le temps de jaser de tout ça dans l'heure du podcast. Par contre, Céline, justement, tu m'apprenais que tu faisais un webinaire sur le sujet. Je sais que tu en as fait un hier. J'imagine que c'est un webinaire que tu refais à quelques occasions, ça?
Bien, c'était la première fois que j'offre le webinaire. Puis c'était vraiment axé sur l'aspect alimentaire. Donc, j'ai comme parlé des autres facteurs, mais c'était vraiment axé sur comme l'aspect alimentaire. Mais prochainement aussi, j'ai le plan pour 2022 de faire un webinaire spécifique sur les perturbateurs endocriniens. Puis leur impact sur la fertilité, la santé hormonale, l'inflammation en général. Mais non, c'était la première fois, mais c'est sûr que je vais les offrir encore une fois en 2022.
Bon, ben merveilleux. Fait que je vous invite à aller suivre Céline Salumé sur ses médias sociaux et consulter son site web. On donnera les détails de toute façon à la fin du podcast. Ouais. Puis je l'écrirai là aussi pour que vous puissiez avoir toute l'information nécessaire au moment venu. Donc maintenant qu'on a dit qu'on a mis le doigt sur les petites choses qui peuvent être problématiques, ben on va y aller de l'avant justement avec les choses qui est bon d'ajouter à son alimentation. Puis j'aimais beaucoup ce que tu disais d'entrée de jeu, que c'est on préfère justement ajouter puis donner des recommandations qui sont positives et favorables que de donner des interdits. Quoique moi, j'adore la controverse, donc je suis allée tout de suite là-dessus. Mais je te laisse, dans le fond, nous parler. Là. Encore une fois, j'avais noté certaines choses qu'on dit qui est favorable pour l'inflammation, mais je te laisse aller simplement. Là, si tu peux nous jaser, ça serait quoi pour toi une diète qui est bénéfique, mettons, au niveau de l'inflammation, si on souhaite diminuer l'inflammation ou réduire nos symptômes?
Personnellement, je suis une grande fan du mode du régime méditerranéen. Donc, si c'est quelque chose que j'enseigne à mes clients, que ce soit pour fertilité ou quoi que ce soit, c'est vraiment genre le mode du régime méditerranéen pour mille raisons. Un, c'est vraiment pas restrictif. Deux, ça encourage vraiment des aliments qui sont frais, non transformés. C'est beaucoup de végétaux, beaucoup de produits à base de graines, de noix, de légumineuses. Ça encourage l'huile d'olive extra vierge qui est comme la meilleure huile pour moi, surtout pour la fertilité, très riche en antioxydants. Il y a le poisson, les acides gras oméga 3. Mais on voit aussi dans l'eau de la pyramide que la viande rouge, les sucreries, donc les petits aliments plaisir, c'est pas un non. Donc, on peut quand même les consommer dans un contexte de modération. Donc, quand on parle d'une alimentation qui est équilibrée, une alimentation qui est comme anti-inflammatoire, je trouve que le régime méditerranéen cible plusieurs de ces coches-là parce que c'est vraiment full antioxydant. Donc, on trouve dans la panoplie de couleurs. Puis on sait que chaque couleur va nous donner tous ces beaux antioxydants qui sont tellement bénéfiques, qui ont tous des actions anti-inflammatoires. La diète méditerranéenne encourage beaucoup l'utilisation des épices, des herbes fraîches. Puis on sait aussi qu'ils sont tellement puissants. Pas juste, ils vont pas juste donner du goût, mais ils vont aussi avoir une action anti-inflammatoire, une action antioxydante. Mm-hmm. Je pense au piment, je pense au gingembre, même aux herbes fraîches comme basilic, écho.
Ouais. Mm-hmm.
Mais donc, c'est pour moi, c'est genre ce genre de mode de vie, c'est vraiment le mode de vie plus à adopter, sans que ça soit restrictif, sans que ça soit difficile, puis qu'il y a tout le temps aussi le plaisir de manger, puis de goûter à des bons plats, si on veut dire.
Mm-hmm. J'adore ça, c'est juste justement de t'entendre en parler, ça nous met l'eau à la bouche, puis ça nous donne le goût de manger comme ça. Puis justement, est-ce que tu pourrais nous cibler certains éléments, là tu nous parles un petit peu, tu sais, les bons gras, l'huile d'olive, mais certains éléments qui sont particulièrement ciblés comme étant bénéfiques là, pour l'inflammation, comme les oméga 3 justement, les végétaux, les fibres, tu as parlé des herbes, est-ce que pour toi, tu sais, il y a un... essaye de nous faire, attends, je te lance au défi, fais-nous un top 3 des meilleurs composés anti-inflammatoires.
Top 3. Je te dirais les épices. Une des épices que j'aime beaucoup, c'est le curcuma.
Oui.
On sait que le curcuma, c'est utilisé depuis des décennies, puis ça a une action anti-inflammatoire. Puis même, je peux te dire que si je reviens à mes clientes endométriose, parfois les suppléments de curcuma, puis là, je mets en parenthèse, s'il vous plaît, ne prenez pas de suppléments sans vraiment consulter un professionnel, mais les suppléments de curcuma peuvent agir comme genre un anti-inflammatoire. Donc, ça peut vraiment aider à réduire les douleurs pelviennes. Mais si on revient à l'utilisation du curcuma en tant qu'herbe, en mettant du curcuma dans le riz, dans les soupes, dans les sautés, faire un lait doré avec une touche de poivre pour aller maximiser l'absorption du curcuma, ça, c'est un geste qui est très simple, qui est très facile, qui est non dispendieux, mais qui va avoir cette touche anti-inflammatoire qui va beaucoup aider.
Oui, j'ai une petite question par rapport au curcuma. De quelle manière tu te le procures? Parce qu'on peut l'acheter frais, puis on peut l'acheter, tu sais, en poudre, là. Mais tu sais, on dirait que j'ai l'impression qu'une poudre de curcuma qu'on va acheter à 2 $ en sachet sera peut-être pas optimale, là. Est-ce que tu as des préférences par rapport à...
Personnellement, j'utilise les deux. J'essaie d'être vraiment pratique de point de vue cuisine. J'ai vraiment les deux. J'ai du curcuma frais, puis j'ai du curcuma qui est plus en poudre. Maintenant, si on dit que, par exemple, ton curcuma en poudre date de genre 10 ans dans ton garde-manger, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée. Donc, tout ce qui est propriété j'arrive pas à prononcer le mot,
Noleptique,
merci. puis même les composantes, les propriétés antioxydantes, c'est principalement diminué, mais du bon curcuma, genre frais, c'est sûr que c'est très intéressant, mais même le curcuma en poudre, ça va beaucoup aider, mais je répète, il faut prendre en considération que l'absorption du curcuma, elle est vraiment faible. Donc, pour aller maximiser l'absorption, il faut absolument utiliser du poivre qui contient la biopipérine qui va aller maximiser l'absorption du curcuma.
Très intéressant. Donc, c'était un des éléments du top 3.
Ah, désolé, mon Dieu.
J'ai oublié qu'on faisait le top 3. Hein?
T'es en train de tricher, Vanessa, mais OK. Bon, mon deuxième, c'est les acides gras oméga 3. Je te dirais le poisson. Les acides gras oméga 3, donc on sait que les types de gras vont favoriser soit la sécrétion de prostaglandines. Les prostaglandines, c'est comme des substances qui vont agir comme des hormones. Mm-hmm. Donc, soit des prostaglandines qui sont inflammatoires ou anti-inflammatoires. Puis, on sait avec la littérature que les oméga-3, ça augmente plus les prostaglandines qui sont anti-inflammatoires. Donc, d'où pourquoi c'est très intéressant pour aller comme diminuer les douleurs. Puis, je recommande tout le temps 2 à 3 portions de poisson par semaine. Mm-hmm. Puis, mon troisième conseil que tu vas vraiment voir plus très souvent sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment le resveratrol. C'est un type d'antioxydant qu'on va trouver dans les baies.
Le vino?
Non, pas, moi, je parle plus des bleuets. Mais bleuets sauvages, surtout au Québec, on a amplement de ce petit fruit qui est magnifique. Mm-hmm. Donc, par exemple, le resveratrol, encore une fois, si on regarde l'endométriose, on voit que ça aide à réduire les lésions liées à l'endométriose. Mais aussi, il y a une récente méta-analyse qui a regardé son impact sur la diminution des douleurs liées à l'inflammation. Donc, c'est un antioxydant qui est quand même très puissant et très intéressant à mettre dans l'alimentation.
Merveilleux. Merci, Céline. Donc, on va passer à la fertilité. Uh-huh. Donc, je sais que c'est un sujet que tu adores et tu nous as bien mis la table en début d'épisode. Donc, premièrement, tu sais, quand on pense à la fertilité, je pense que le lien avec l'alimentation se fait peut-être moins automatiquement que pour d'autres problématiques, mettons, de santé. Donc, pardon, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, c'est quoi le lien d'entrée de jeu, là, c'est quoi le lien entre l'alimentation et la fertilité?
OK, juste pour te donner une idée combien le lien est immense, je donne un programme de formation continue de plus que 15 heures pour les professionnels de la santé sur le sujet. Okay. Et même pour ma troisième cohorte, ça se peut qu'il y aura d'autres sujets qui vont s'ajouter parce que c'est un domaine qui est tellement... en évolution, il y a tellement de la littérature sur le sujet, mais pour répondre brièvement à ta question, ça va aider dans toute l'étape de la conception. Parce que pour concevoir, tu veux une ovule en santé, tu veux des spermatozoïdes en santé, tu veux vraiment un cycle menstruel normal, donc un cycle ovulatoire. Donc, il y a tellement des étapes, puis l'alimentation va avoir un impact sur chacune de ces étapes d'une façon ou d'une autre. Okay. Donc, c'est tellement fascinant quand on rentre en détail, mais brièvement, comment l'alimentation va aider? Ça va aider avec la qualité des ovules et des spermatozoïdes, ça va aider avec la conception, ça va aider avec la santé hormonale, à favoriser plus l'implantation de l'embryon, augmenter les chances, les succès de traitement de fécondation in vitro. Il y a tellement de choses que l'alimentation va faire. Puis quand on parle aussi de fausses couches, puis quand on parle de problématiques plus poussées en lien avec la fertilité. Il y a certaines carences alimentaires qui peuvent comme, être détectées puis traitées puis qui vont aussi beaucoup aider à prévenir, par exemple, les fausses couches. Je pense, par exemple, à la vitamine D ou, par exemple, détecter la maladie cœliaque parce que quand la maladie cœliaque est non détectée puis il n'y a pas de symptômes, parfois, ça peut être aussi une raison de fausses couches. Donc, l'alimentation joue un gros rôle, mais comme tu as dit, malheureusement, ce n'est pas un sujet qui est bien connu ou qui est aussi bien abordé. Je pense qu'on n'est vraiment pas nombreuses au Québec à comme maîtriser aussi plus ce sujet-là, donc ce lien entre l'alimentation puis la fertilité, mais il y a tellement de choses à aborder quand on pense à ça.
Oui, c'est vraiment intéressant. Puis là, tu vois, je baissais les yeux pour constater c'était quoi ma prochaine question. Puis c'était comme, c'est quoi les meilleurs conseils justement pour quelqu'un qui aurait des troubles de fertilité? Mais là, la manière que tu en parles, j'imagine que c'est quelque chose qui est aussi ultra personnalisé, là, dépendamment justement, bien, premièrement, la problématique est où? Puis est-ce qu'on va plus essayer d'optimiser les hormones ou est-ce que c'est plus un problème justement d'inflammation ou de quoi que ce soit? Mais est-ce qu'il y a des conseils généraux qui s'appliquent, mettons, à la fertilité et à l'alimentation?
Ben, les conseils, c'est sûr qu'il y a des conseils généraux. Donc, encore une fois, on revient à la base. Donc, une alimentation qui est peu transformée, beaucoup de végétaux, mettre des bons gras dans l'assiette. Donc, il y a le concept. Ça, je le répète aussi souvent. Donc, une alimentation faible en gras dans un état de je veux concevoir, je veux un bébé, c'est pas la meilleure des choses. Donc, je peux voir des clientes qui vont comme choisir du yogourt 0% gras, des trucs écrémés, tout est écrémé. C'est vraiment pas une bonne chose d'aller vers des choses qui sont comme faibles en gras parce qu'on a vraiment besoin du gras pour la fabrication de nos hormones. Donc, mais on revient vraiment à la base. Puis la base, c'est vraiment beaucoup de couleurs dans l'assiette, des gras qui sont plus insaturés comme l'huile d'olive, comme les noix, comme les acides gras oméga 3, une variété alimentaire pour aller chercher plus tous les nutriments comme le folate, comme le groupe B, comme le magnésium. Donc, c'est vraiment revenir à la base. Mais comme tu as dit, Vanessa, ça va dépendre vraiment de la problématique parce que tu peux avoir tellement de scénarios. Donc, ça peut être, par exemple, une femme qui a le syndrome des ovaires polykystiques, qui n'a pas de cycle menstruel et qui n'a pas un cycle ovulatoire et qui désire avoir un enfant, qui n'a pas encore consulté une clinique de fertilité. Ça peut être une femme qui est plus en âge avancé. Donc, on parle de, par exemple, la quarantaine qui embarque dans un cycle de fécondation in vitro. Ça peut être une combinaison de SOPK, hypothyroïdie avec endométriose. Ça peut être une anomalie au niveau du sperme, donc il y a un problème au niveau de la morphologie, il y a un problème au niveau de la quantité. Ça peut être une fragmentation élevée de l'ADN qui, by the way, a un risque élevé de fausse couche. Donc, il y a tellement de facteurs, puis il y a tellement de composants. Donc, l'évaluation puis les recommandations vont être un peu dépendantes du cas puis des antécédents médicaux.
Oui, je comprends. Puis, justement, là, tu as mis la table en parlant un petit peu du sperme, là, mais tu sais, c'est différent, évidemment, de l'homme et de la femme, mais j'ai vu que tu offrais un cours en ligne là, par rapport à la fertilité des hommes, mais en quoi, justement, ça diffère? Puis là, on parle beaucoup, justement, depuis tantôt de la femme, puis tu disais, justement, que tu t'adressais beaucoup à la femme en consultation dans ton travail, mais par rapport à l'homme, sur quoi on peut avoir un impact avec l'alimentation, puis en quoi c'est différent? Puis peux-tu nous parler un petit peu de ça?
Très bonne question. Puis quand j'ai vu ta question, je suis comme, il faut absolument qu'on aborde cette question-là.
Oui, je vais t'en sourire, là, j'en parlais.
Non, mais en effet, la raison pourquoi j'ai créé le cours spécifiquement nutrition et fertilité au masculin, c'est parce que déjà à la base, la fertilité, c'est un sujet qui est très tabou, qui est très difficile à aborder. Puis c'est encore plus difficile pour l'homme. Donc, quand il y a une anomalie au niveau du sperme ou quand il y a un problème de fertilité masculine dans le couple, même s'il y a un problème aussi de fertilité féminine, mais dès qu'il y a un problème de fertilité masculine, c'est tout le temps un sujet très délicat à aborder. Puis, genre, je peux te dire que parmi tous les clients que je consulte, peut-être 1 sur 8, 1 sur 10, où le conjoint est prêt à consulter ou à comme parler puis à prendre des conseils, même s'il y a une anomalie au niveau du sperme. Donc, il y a tout le temps ce déni, si on veut dire. Puis, il y a tout le temps aussi, la femme, elle est plus proactive dans sa façon de réagir. Mais l'homme, il est plus comme plusieurs pas en arrière. Puis, je peux te dire aussi, je peux blâmer beaucoup... il y a beaucoup moins de sensibilisation puis de point de vue du corps médical. Donc, même si, je te donne un exemple qui est comme un peu récent dans ma tête. Donc, une cliente qui va passer par un don d'ovule à cause d'un âge avancé, mais son conjoint a une anomalie au niveau des spermes. Mais non seulement ça, il a une fragmentation de l'ADN qui est élevée. Mais malgré ça, la clinique de fertilité, comme, OK, c'est correct, on va faire une FIV puis ça va comme bypasser le problème. Mais il n'y avait aucune recommandation pour le conjoint de genre attention à ton alimentation, attention au tabac, attention à X, Y, Z pour juste comme sensibiliser de un. Puis ce genre de recommandations vont optimiser sa prochaine batch de sperme parce que les hommes sont chanceux et leur sperme se régénère environ aux 3 mois. Donc, les changements qu'ils vont essayer d'appliquer, donc par exemple s'ils fument, s'ils prennent le cannabis, ou s'il y a une consommation élevée d'alcool ou une alimentation qui est ultra transformée. Et si on travaille sur ces points-là, c'est sûr que ça va beaucoup avoir un impact sur la qualité de sa prochaine
match. Okay, ouais, ça paraît quand même très rapidement, c'est cool, là, c'est ça?
Oui, mais donc la raison pourquoi j'ai créé ce fameux cours, c'est parce que j'ai tellement de clientes qui veulent savoir quoi faire pour leur conjoint, mais le conjoint n'est pas prêt à consulter. Donc, ça donne une façon, donc c'est comme un cours qui est comme self-paced, self-paced. Moi, je ne suis vraiment pas présente. Mm-hmm. Ils peuvent écouter vraiment dans le confort de leur maison, mais je parle vraiment de tous les facteurs. Puis il y a tellement, le sperme, c'est la plus petite cellule, by the way, dans le corps. Puis c'est une cellule qui est extra-sensible à tous les facteurs qui peuvent augmenter le stress oxydatif. Donc, tout ce qui peut, genre, augmenter l'oxydation au niveau de la membrane des spermatozoïdes, ça va affecter la qualité. Donc, on parle du stress, on parle des médicaments, on parle de l'alimentation, tabac, alcool, cannabis, il y a tellement, tellement de facteurs. Les perturbateurs endocriniens, pollution, le Wi-Fi, écho, il y a tellement de facteurs. Donc, dans le cours, j'adresse vraiment tous ces facteurs-là. Puis, c'est vraiment dans le but de sensibiliser que... Ça prend deux pour avoir un bébé.
Ouais.
Quand on parle de l'embryon, c'est 50 % de la femme, c'est 50 % de l'homme. Donc, sa partie, elle est aussi importante dans toute l'équation de la conception. Puis malheureusement, ce que je vois dans ma pratique, c'est que les femmes vont s'en donner à 300 %. Donc, elle va faire tout ce qu'elle peut pour optimiser son alimentation, faire attention à son activité physique, à son mode de vie, mais son conjoint ne veut rien savoir. Et ça, c'est comme un peu... je peux dire c'est malheureux parce que...
C'est méconnu aussi, là. Tu sais, on dirait que la femme est porteuse. On dirait qu'on met, tu sais, justement, on met 80 % du poids de la conception sur le dos de la femme, alors que non, dans le fond, tu sais, surtout dans un problème où c'est, la fertilité est problématique. Tu sais, clairement, ça peut être l'un ou l'autre, là. C'est pas juste au niveau de la grossesse, quoi que ce soit, là. C'est en amont, là. Il faut changer notre perception par rapport à ça, hein. Je pense que tu me fais réaliser un petit peu.
Mm-hmm. Parce que tu vois, jusqu'à 50 % si on regarde les causes de l'infertilité, la part du mâle peut aller jusqu'à 50 % des cas. Donc, c'est quand même assez significatif.
Oui, vraiment. Puis, il y a une question aussi qui m'a popé quand tu parlais tantôt. Là, tu sais, tu disais justement que chez l'homme, le sperme se régénérait, mettons, aux 3 mois. Puis, j'imagine qu'on peut évaluer justement avec la qualité des spermatozoïdes un peu l'effet finalement du traitement. Mais, tu sais, chez la femme, quand on fait des traitements au niveau de la fertilité, est-ce que c'est possible de voir, tu sais, l'effet des traitements ou comment qu'on fait pour voir si on a une amélioration? Est-ce qu'il y a différentes choses qu'on peut observer ou c'est plus subtil?
Très bonne question. Heureusement, on a comme des tests pour comme quantifier la qualité des spermatozoïdes. Donc, un spermogramme, puis surtout maintenant dans les cliniques de fertilité qui sont privées, il y a un spermogramme plus le test de fragmentation d'ADN qui va plus montrer ce stress oxydatif. Mais malheureusement, quand on parle des femmes, il n'y a pas nécessairement un test spécifique qui va déterminer la qualité des ovocytes. Donc, il y a l'AMH ou par exemple l'échographie folliculaire qui va plus avoir comme la quantité, avoir une idée de la réserve ovarienne en général, mais il n'y a vraiment aucun test pour comme quantifier la qualité. C'est plus que quand le couple va passer à travers une fécondation in vitro puis on va faire la ponction folliculaire, les embryologistes vont pouvoir comme juger que c'est une ovule qui est quand même de bonne qualité ou elle est comme de moins bonne qualité. Mais pour répondre à ta question de point de vue alimentaire, comment on peut dire, OK, ça aide ou non? Donc, si je prends par exemple, pour moi, je prends le cycle menstruel comme un signe vital. Donc, si je travaille avec une cliente qui n'a pas de cycle ovulatoire, qui a des problèmes, des troubles hormonaux, puis on arrive à régulariser le cycle,
pour moi,
ça c'est comme un win. Si je travaille avec une cliente qui a l'endométriose, qui a des caillots à chaque menstruation, des douleurs pelviennes atroces, des menstruations hyper abondantes, puis quelques mois plus tard, il n'y a plus de caillots, il y a une diminution au niveau des douleurs, le flux menstruel, il est plus normal. Pour moi, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment la santé du cycle menstruel qui va donner une idée. Mais aussi dans un contexte de fertilité, je peux te dire que quand le couple s'implique, quand les deux couples s'impliquent, c'est là où je vois vraiment les meilleurs résultats en termes de résultats de fécondation in vitro. Donc, tu vas avoir des clientes qui vont avoir 10 blastocytes. Blastocytes, c'est l'embryon au stade 5 qui est prêt à être transféré dans le corps de la femme. Donc, que le résultat de leur première fécondation in vitro va être vraiment super bon. C'est parce qu'elle a mis de l'effort, puis il a mis de l'effort. Puis, ils ont commencé à faire ces efforts plusieurs mois avant le début de leur traitement.
Très intéressant. Puis tu m'ouvres vers une dernière question qui n'a pas tant rapport avec la fertilité, mais je t'écoutais parler, puis dernièrement, j'ai comme réalisé qu'il y avait des femmes qui souffraient de SPM vraiment très intense. Est-ce que c'est une problématique à laquelle tu t'intéresses aussi ou tu te spécialises vraiment dans la fertilité?
Moi, je fais vraiment santé des femmes, puis ben, ça englobe ce que tu sais, ce qu'on est en train d'adresser. Donc, le SPM, ça fait partie de ça. C'est en effet, tu vois, quand je fais mon éval, puis parmi les questions que je vais poser, il y a vraiment comme une bonne partie sur le cycle menstruel. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'il y a des caillots? C'est quoi la durée? Est-ce que c'est irrégulier? On parle du SPM. Quels sont les SPM? À quand ça commence? Spotting. Donc, il y a
C'est
tellement
des questions que je pose jamais.
je sais, mais c'est des questions que je pose. Je n'ai jamais rendu
Ben oui.
genre, il y a 8 ans, 10 ans, mais c'est rendu maintenant, genre, absolument dans chaque éval.
Les clientes te consultent pour ça aussi, donc clairement, c'est
Donc,
pertinent.
effectivement, s'il y a des SPM qui sont très sévères, il faut se questionner le pourquoi. Puis, c'est là qu'il vaut plus comme travailler au niveau de la santé hormonale.
Ah, vraiment intéressant. Hey, merci beaucoup, Céline.
Ça
Ça
fait
m'a
plaisir. Merci de
fait plaisir
m'avoir.
de discuter de tout ça avec toi. C'est vraiment passionnant. Puis ça nous fait réaliser à quel point l'alimentation, c'est un monde de connaissances. Puis, tu sais, on a beau s'intéresser à l'alimentation tous les jours. Tu sais, moi, je le dis souvent, là, que, tu sais, il n'y a pas une journée où je ne lis pas sur l'alimentation. Puis j'ai encore l'impression que je ne sais rien, là. Tu sais, il y a tellement de choses à savoir. Puis c'est ce qui est passionnant, en fait, là. Donc, tu nous ouvres une magnifique porte vers un sujet qui est trop peu traité, je crois. Donc, merci infiniment pour ton
Ça
temps.
fait plaisir,
Et
sérieux. Merci encore de ton invitation. Puis, genre, c'est un sujet qui me passionne tellement. Donc, tu
Ben,
peux
ça paraît.
me contacter quand tu veux.
Ça paraît. Puis juste pour terminer, en fait, justement, je disais aux gens qu'on allait mentionner à quel endroit on pouvait te retrouver. Donc, site web, médias sociaux, si on veut te contacter. Céline, à quel endroit on te retrouve?
Ah, je suis facilement retrouvable sur les réseaux sociaux. Donc, Céline Saloumi Nutrition, Insta, Facebook, j'ai mon site web. J'ai aussi, juste pour vous dire qu'en ce moment, donc au moment que le podcast va être live, donc le guide devrait être prêt, mais je suis en train de concocter un guide gratuit sur comment optimiser la fertilité avec les nutritions pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent avoir un point de départ. Donc ça devrait être aussi prêt au moment où le podcast va être live.
Bon, ben merci beaucoup Céline. Je te souhaite une belle fin de journée.
Merci à toi. Bye.
Bye. Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!